suite le journal de la rédaction avec vous, Anne-Laure Chouin. Bonjour.
Bonjour à tous. Au Royaume-Uni, les choses s'accélèrent avec finalement le remplacement de David Cameron au poste de Premier ministre demain, mercredi, au lieu de septembre, comme initialement prévu. Il y avait deux femmes dans la course jusqu'à ces derniers jours, mais faute de soutien suffisant, Andrea Leadsom, la rivale de Theresa May, a finalement jeté l'éponge. Demain, c'est donc Theresa May, femme discrète rompue aux joutes politiques, qui prendra les rênes et devra mener à bien la procédure de Brexit. Depuis Londres, les précisions d'Annabelle Grelier.
Pour ceux qui avaient encore un doute sur sa détermination à mener les négociations sur les termes de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, Theresa May, lors de son premier discours devant la Chambre des communes, s'est montrée sans équivoque.
Brexit means Brexit, and we are going to make a success of it.
Brexit signifie Brexit, et nous en ferons un succès. Nous devons unir notre pays, et nous avons besoin d'un regard nouveau et positif sur l'avenir de ce pays. Un pays qui ne sert pas seulement les intérêts de quelques-uns, mais qui profite à tous. Nous devons remettre les gens aux commandes de leur vie, car c'est comme ça qu'ensemble, nous allons construire un pays plus fort. Theresa May, propulsée en quelques heures Premier ministre, occupera officiellement ses fonctions mercredi soir, le jour même où David Cameron doit présenter sa démission à la reine Elisabeth. Mais la nomination d'un nouveau Premier ministre, bien avant l'échéance initialement prévue, ne devrait pas pour autant donner un coup d'accélérateur au Brexit. Theresa May, ayant déjà prévenu que le Royaume-Uni devrait d'abord élaborer sa stratégie de négociation et ne déclencherait pas le processus de sortie en invoquant l'article 50 du traité de Lisbonne avant la fin de l'année.
Le président américain se rend à Dallas aujourd'hui pour un hommage aux 5 policiers tués jeudi soir par un militaire noir, un militaire qui soutenait plusieurs mouvements extrémistes tels que New Black Panther Party, Black Riders Liberation ou encore Nation of Islam, le pendant noir du Ku Klux Klan et d'autres organisations suprémacistes blanches. Ces groupes séparatistes noirs ont émergé ou se sont renforcés ces dernières années et font aujourd'hui du tort à des groupes pacifistes comme Black Lives Matter. À New York, les explications de Charlotte Alix.
Dans les premières heures qui ont suivi la tuerie de Dallas, les militants de Black Lives Matter ont délivré un message sans équivoque. En aucun cas, leur mouvement n'appelle à blesser ou tuer des policiers. En revanche, sur Internet, certains membres d'autres groupes n'ont pas hésité à féliciter le tireur. « Nous n'avons pas d'alternative, nous devons tuer des officiers de police blancs à travers le pays », a ainsi écrit le dirigeant de la Ligue de défense des Afro-Américains, un ancien conseiller du New Black Panther Party. Ce sont des organisations que le tireur de Dallas suivait sur Facebook, comme Black Riders Liberation et Nation of Islam, autant de groupes considérés comme racistes et antisémites par les centres qui traquent les groupes haineux. À l'opposé des groupes suprémacistes blancs, ces organisations sont nées en réaction à une oppression. Beaucoup se réclament d'ailleurs des Black Panthers historiques, dont les ex-membres se sont pourtant désolidarisés de ces groupes prônant la haine. Mais contrairement aux activistes de Black Lives Matter, ils ne se contentent pas d'appeler à des réformes, ils diabolisent les blancs, les homosexuels et les juifs. Contre l'intégration, certains appel à des institutions séparées, voire un pays séparé pour les seuls noirs d'Amérique. Depuis 2 ans, la mort très médiatisée de plusieurs Africains-Américains tués par des policiers a contribué à l'émergence de nouveaux groupes. Le Southern Poverty Law Center, le centre de recherche qui fait figure d'autorité en la matière, recensait 180 groupes séparatistes noirs en 2015, contre 113 un an plus tôt.
Charlotte Alix. Au Sud-Soudan, les deux chefs rivaux ordonnent une trêve. Le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar ont chacun ordonné à leurs troupes de cesser le feu. Les combats ont fait plusieurs centaines de morts ces derniers jours et menacent de faire retomber le pays dans la guerre civile 5 ans après l'indépendance de ce jeune pays. Ban Ki-moon a encouragé le Conseil de sécurité de l'ONU à déclarer un embargo sur les armes à destination du Sud-Soudan et à prononcer des sanctions contre les chefs qui ne feraient pas respecter les accords de 2013. Le 12 juillet 2006, soit il y a 10 ans, débutait la deuxième guerre du Liban entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, un conflit de 34 jours qui a tué plus de 1000 civils des deux côtés. Une décennie plus tard, les deux pays sont toujours officiellement en guerre. Les tensions à la frontière sont régulières, frontière où Nicolas Roper a rencontré les habitants israéliens qui craignent un nouveau conflit. Son reportage.
Du kibboutz d'Iron, on distingue très clairement les premiers villages libanais. C'est pourtant ici que résident environ 400 Israéliens, dont Zohar Dekel, père de 4 enfants. Il montre un des abris construits pour les habitants.
Cette pièce-là, c'est l'abri pour se protéger en cas de bombardement. Les enfants savent qu'ils doivent y aller en cas d'alerte. On espère toujours que ce ne sera pas trop souvent. On ne sait pas s'ils préparent une action militaire de l'autre côté, mais on se doit d'être prêt au cas où, si jamais ça dégénère.
En 2006, près de 500 000 résidents du nord d'Israël avaient quitté la zone pour éviter les roquettes du Hezbollah tirées en direction de l'État hébreu. À Iron, les femmes et les enfants avaient été évacués. Assistante maternelle dans le kibboutz, Nora Ben Schluss redoute ce scénario.
La plupart du temps, c'est calme ici. Parfois, on a des coups de frayeur, mais ça va. En début d'année, l'armée israélienne a entouré le village car on craignait une infiltration ennemie. On nous a ordonné de rester à la maison et de ne pas sortir, mais c'était une fausse alerte, heureusement.
Des exercices sont régulièrement organisés, confirme Shlomi Flax, le responsable de la sécurité du kibboutz.
Chacun sait quoi faire, chacun sait dans quel abri il doit aller. On n'a pas seulement des exercices, mais sachant que nous sommes une communauté, on sait qui doit aller aider les personnes âgées, par exemple. On est très organisé.
En 2006, 44 civils israéliens avaient été tués par les roquettes du Hezbollah. Selon Amnesty International, 1191 civils libanais ont été tués par l'armée israélienne, que l'organisation accuse de crimes de guerre.
Nicolas Roper, le président sud-africain Jacob Zuma en visite officielle en France depuis hier. Après avoir été reçu à l'Élysée par François Hollande, il se rend aujourd'hui dans la Somme pour commémorer le centenaire de la bataille de Bois-d'Elville où 3000 soldats sud-africains ont combattu les troupes allemandes en 1916. Mais cette visite d'État a aussi pour objet de renforcer les partenariats économiques entre les deux pays dont les relations sont depuis des années placées sous le signe de l'ambiguïté. Stéphane Robert.
Officiellement, les relations entre François Hollande et Jacob Zuma sont chaleureuses. Mais avant, hier soir, le président sud-africain n'avait encore jamais été reçu à l'Élysée. Ça fait pourtant plusieurs années que la France courtise l'Afrique du Sud, qu'elle considère comme l'une des portes d'entrée essentielles sur le plan économique en direction de l'Afrique subsaharienne. Mais l'Afrique du Sud, elle, se méfie de la France, qu'elle accuse d'ingérence sur le continent africain, à cause notamment de l'importante influence que la France conserve dans les pays africains francophones et de l'intervention militaire française au Mali. Mais le Brexit, la sortie des Britanniques de l'Union européenne, est peut-être en train de faire évoluer les choses dans le sens d'un rapprochement, car les risques qui pèsent sur l'économie britannique pourraient avoir des conséquences négatives sur l'économie sud-africaine, dont la croissance est déjà très faible. Et du coup, l'Afrique du Sud cherche d'autres sources d'investissement. La France, dans ces conditions, en tant que sixième économie mondiale, apparaît comme un partenaire à ne pas négliger. D'ailleurs, un certain nombre d'accords commerciaux vont être signés entre les deux pays à l'occasion de cette visite d'État.
Le temps de ce mardi, plus frais avec des pluies ou des averses passagères des Pyrénées aux Alpes et au Jura. Le temps sera très nuageux. Ailleurs, temps instable, sauf en Méditerranée, grand ciel bleu. Les températures descendent, comptées jusqu'à 18 degrés ce matin, jusqu'à 33 cet après-midi. Ces journaux ont été préparés avec Martin Descloseaux et François-Charles Domergue. Prochaine édition à 12h30, le journal d'Antoine Mercier. Très bonne journée à vous.